les étudiants en médecine ont toute liberté. Le rendez-vous de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, c'est tous les mercredis dans Okapi Action, à partir de 10h, heure de Kinshasa.
En RDC, le milieu universitaire est de plus en plus miné par des antivaleurs. Chaque année est marquée par des actes qui n'honorent pas l'enseignement supérieur et universitaire. Points sexuellement transmissibles par-ci, affrontements entre étudiants par-là, pour ne citer que ces deux cas qui illustrent bien les antivaleurs dans les différents campus. Des comportements décriés par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire qui tient à les voir disparaître. Lors de son échange du jeudi dernier avec les acteurs œuvrant dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, Masha Komamba leur a demandé de mieux travailler pour mettre sur le marché de l'emploi les meilleurs de leurs éléments qui pourront lancer le pays vers la voie du développement. Nous allons faire le point, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Arlette qui a fait le tour des universités. Arlette, qu'est-ce qui a motivé la décision du ministre?
Signalons d'abord que c'est depuis sa prise de fonction que le nouveau ministre a eu une série d'entretiens avec les forces vives de son département et avec elle, le numéro 1 de l'ESU a pu passer en revue toutes les préoccupations académiques posées par les participants à cette première rencontre. En toile de fond, deux antivaleurs qui rongent le système éducatif au niveau supérieur et universitaire. Pour le ministre de l'Université congolaise, l'université congolaise souffre de l'inversion de valeurs qui l'empêche de mener à bien sa tâche de production de l'élite qui doit prendre en charge le lendemain du pays. Voilà pourquoi le ministre de tutelle a fait de cette lutte contre les antivaleurs dans les différents campus du Congo son cheval de bataille. Question de redorer l'image ternie.
Et Arlette, que pensent les autorités administratives de cette implication du ministre qui prend à bras le corps ce problème?
Tous encouragent cette initiative. Cependant, ils reconnaissent tous leurs grandes responsabilités sur le problème posé par le ministre. Ils évoquent même certains problèmes réels rencontrés dans les universités et instituts supérieurs. Écoutons ici la réaction de M. Lema, qui est DG ou directeur général de l'Institut national des arts.
C'est bien qu'on se ressaisisse parce que nous connaissons pas mal de problèmes dans notre système d'enseignement actuel. Et donc il est grand temps que nous puissions réellement faire quelque chose. Bon, ben moi je crois que c'est une très bonne chose. Et je crois que nous devons tous prendre conscience de ça et nous mettre réellement au travail. Parce que lorsqu'on voit ce qui se passe dans nos universités, je crois que le ministre a parfaitement raison. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent quand on parle des antivaleurs. Les comportements des étudiants, les professeurs, les relations avec les étudiants, même au niveau de l'enseignement, on se demande finalement où l'on va. Je crois qu'il est grand temps que nous fassions réellement quelque chose. En ce qui nous concerne, nous sommes en train de sensibiliser tout le monde, les étudiants comme les étudiants. D'abord, en ce qui concerne les relations avec les étudiants. Un professeur reste un professeur. C'est vrai qu'il doit pas y avoir beaucoup de barrières entre l'enseignant et l'enseigné, mais il faudrait quand même aussi certaines limites pour que l'enseignant, l'enseigné puisse avoir un certain respect vis-à-vis de l'enseignant. En ce qui concerne les cotations, c'est un vieux problème. On parle des points sexuellement transmissibles, par exemple des termes comme ça que vous entendez dans les universités, et nous sommes franchement en train de bannir et essayer de changer cette façon de voir les choses.
Bien, Arlette, là, nous venons de suivre M. Lema, qui est directeur général de l'Institut national des arts. Nous retenons qu'il reconnaît qu'il y a beaucoup à faire. Il reconnaît que les points transmissibles existent. Mais quels sont les mécanismes mis en place pour lutter contre ces antivaleurs?
Il faut dire que des textes sur le voie des moyens pour révaloriser le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire existent. Mais seulement, le ministre a l'impression que ceci ne servent à décorer le rayon de bibliothèque de professeurs qui sont censés de le faire appliquer.
Mais comment réagissent les professeurs puisqu'ils sont souvent accusés d'être à la base de la détérioration des universités, Arlette?
Pour le professeur Kabamba, qui est président de la PUKIN, donc l'association du professeur de l'UNIKIN, cette idée tombe à pic, mais il faut aussi beaucoup de moyens pour arriver à une fin meilleure. Suivons ici sa réaction.
Les cas de l'UPER sur les rémunérations, des manières ordinaires, et si on peut prendre la comparaison du côté de l'administration publique, c'est-à-dire ici, dont le salaire de base est fixé, suivant le premier palier à 50 000 $, d'office, quand nous entrons, dans le taux progressif du calcul de cet impôt-là, nous avons un impôt qui varie autour de 5 $, de 2 900 francs, suivant le taux progressif. Et là, il s'agit de la catégorie la moins classifiée, suivant le suivi d'ici, c'est-à-dire le manière ordinaire.
Voilà, nous sommes allés vite en besogne. Excusez-nous pour ce son. Arlette, quelles sont les chances de réussite que d'aucuns accordent à la démarche du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire?
Lui-même, le ministre l'a reconnu que la tâche ne sera pas facile du tout, étant donné que le mal est très profond. Pour lui, il faut l'implication de tout le monde, étudiant, professeur et administratif. Mais toutefois, le numéro un du ministère de l'ESU est très optimiste.
Mais puisque les premiers concernés sont les étudiants, et comment ont-ils réagi face à cela?
De leur côté, certains étudiants reconnaissent qu'il existe vraiment des antivaleurs dans les universités et ils encouragent tous l'idée du ministre. Suivez ainsi leur réaction.
Premièrement, c'est une très bonne chose. En soi, je suis étudiante. C'est que je dois savoir que je suis dans un milieu où il y a des intellectuels. Nous devons avoir des comportements qui sont dignes. Une étudiante, c'est quelqu'un qui projette déjà à la vie, l'avenir. Nous devons éduquer déjà cette masse. Nous devons d'abord passer à l'université, non pas pour de bêtises, mais pour essayer d'améliorer beaucoup de bonnes choses. Nous devons très bien nous habiller. Cet milieu-là de l'université, il y a toujours une langue qui est populaire, le lingala. On parle à tout moment, on s'habille très mal, on ne sait même pas ce que nous sommes venus faire à l'université. C'est comme une mode. Tout le monde veut aller à l'université sans savoir ce qu'il est venu faire. Mais nous devons avoir la conscience. Pourquoi nous sommes à l'université?
C'est de la lutte contre les antivaleurs dans les universités. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est vraiment, c'est comme ça devenir un fléau. Il faut bien contrôler les étudiants. Parce que les étudiants d'aujourd'hui se comportent comme des jeunes dans les cités qui se disent comme des koulouna. Nous voyons comment est-ce que les étudiants montent dans les véhicules, se battent entre eux. Donc, je ne sais pas, arrachent même des véhicules des particuliers et surtout les filles étudiantes, la manière de s'habiller. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est vraiment un phénomène, ça commence à devenir un fléau. Je veux dire que le gouvernement s'y attelle.
Oui, Arlette, les étudiants sont presque tous satisfaits de cette mesure. Ils décident même de s'impliquer dans la lutte contre les antivaleurs, mais en termes clairs, qu'est-ce que le ministre reproche à tous ces administrés?
Le trafic d'influence, la corruption sur toutes ses formes, pour ne citer que ses portées, range systématiquement les instituts supérieurs et universités du Congo. Tenez par exemple, nous, pour satisfaire à une session académique pour les étudiants, en cas de manque de moyens de sa corruption, c'est les points sexuellement transmissibles qui vous donne automatiquement les visas. Malheureusement, il faut vraiment le dire ainsi. Pour le piètre des étudiants, la condition sine qua non de passage, c'est les billets des banques et rien d'autre. Écoutons encore une fois le professeur Kabamba qui nous énumère aussi ici les antivaleurs.
Bon, il y a toute une liste qui n'est pas exhaustive. Je vais vous donner. On parle de corruption. Ça, c'est déjà quelque chose. Bon, monnayage des côtes. Bon, les codes transmis en tenant compte du tribalisme, ainsi de suite. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Bon, effectivement, nous entendons à la télévision, à la radio concernant les points transmis en utilisant le sexe, tout ça. Hein. Mais ça, il faudrait vérifier que je n'ai pas encore vu ça ici chez nous, mais nous sommes en train de regarder ce problème, les gars. Nous sensibilisons les collègues.
Voilà, le professeur Kabamba dit qu'ils sont en train de sensibiliser les collègues.
Il faut dire qu'il y a d'abord une sensibilisation au niveau d'eux-mêmes de professeurs, ensuite au niveau des universités aussi, donc par rapport aux étudiants.
Bah, nous allons le savoir tout à l'heure avec notre invité, Arlette. Qu'en est-il alors des bagarres rangées entre étudiants et s'agit-il aussi des antivaleurs?
Oui, non, il faut noter qu'à chaque fois que les étudiants sèment la terreur dans la ville, c'est l'ordre public qui est souvent perturbé. Et dans bien des cas de vols, pillages, destructions et autres dégâts sont enregistrés, causant ainsi plusieurs dommages. Voilà pourquoi, pour le ministre, cet acte de vandalisme est aussi à déplier. Pour votre gouvernement, pas plus tard qu'avant-hier, donc lundi, on a assisté à une bagarre rangée entre les étudiants de l'Institut supérieur de commerce et ceux de l'IBTP. Selon nos sources, cette situation s'est réduite à un malentendu entre ses camarades après une rencontre sportive amicale. Semble-t-il que la cagnotte leur accordée par une grande autorité pour leur réjouissance après le match n'était pas bien partagée et les IBTP qui clament tout haut d'être victimes de l'escroquerie par les IEC n'ont pas hésité de faire une descente punitive à l'IEC. Notez que la police est intervenue pendant 3 jours de tension pour calmer la situation. À l'instant même, selon les sources concordantes, leurs cours ou les cours sont suspendus momentanément dans ces deux établissements.
Oui, est-ce qu'il faut finalement dire qu'il y a des failles dans l'enseignement supérieur et universitaire, Arlette?
À notre niveau, nous, il est difficile de le confirmer, mais seulement à titre exemplatif, le ministre a tablé sur le non-respect de la loi cadre de l'ESU. Il a ici cité le corps académique qu'il faut restructurer, car beaucoup de ceux qui exercent aujourd'hui comme professeurs à temps plein, mais ne sont pas qualifiés pour le faire.
Merci Arlette pour ce grand dossier et à la prochaine. Hein.
Merci.
Au café, à pied, pour la paix.
Macha Komamba, vous êtes le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, nous allons parler de la lutte contre les antivaleurs dans le milieu universitaire. Première question, quels sont les objectifs poursuivis en initiant cette action de lutte contre les antivaleurs dans les milieux universitaires?
Merci beaucoup. Je pense qu'il faut se rappeler que le ministère de l'enseignement supérieur universitaire est le ministère qui met sur le marché de l'emploi les cadres tant du secteur public que privé. Et il est donc important que ceux qui demain sont appelés à être des modèles, quel que soit le secteur dans lequel ils sont, qu'ils puissent évoluer dans un milieu où on combat la corruption, les antivaleurs, et que, en fait, à côté de la science, on veille qu'il y ait le respect de l'éthique et de la moralité. Autrement, la situation telle que nous sommes en train de la vivre aujourd'hui nous montre que notre société a perdu des repères, et si l'enseignement supérieur ne se ressaisit pas en formant des hommes et des femmes qui ont le respect et la culture des valeurs, nous ne pourrons pas amener notre pays au développement.
Mais d'après vous, quelles sont les causes de ces antivaleurs que vous décrivez aujourd'hui?
Bon, je pense que aujourd'hui, nous avons dans notre pays la culture d'un enrichissement rapide, de l'accession à des responsabilités, surtout parce qu'on est pistonné ou parce qu'on a des parentés avec tel ou tel. Le trafic d'influence est devenu monnaie courante. Et je pense aussi concernant les relations de certains enseignants avec les étudiants, la distance réglementaire a disparu et c'est ainsi que on pense que par des facilités de toutes sortes, on peut brandir un titre et cela se manifeste par ces cérémonies qui me paraissent presque à la limite de la jonglerie de pour des toges, réduisant en fait finalement la valeur d'un scientifique ou d'un homme ou d'une femme formée à ce qui est apparent et non pas ce qui est à l'intérieur de lui qui fera de lui un élément moteur pour le développement du pays.
Oui, monsieur le ministre, ces antivaleurs sont dues à plusieurs facteurs. Nous savons qu'il y a la promiscuité dans les hommes d'étudiants, il y a aussi un nombre exagéré des étudiants dans les auditoires, il y a aussi l'éducation de base en famille. Il y a donc du travail à faire pour éradiquer toutes ces antivaleurs.
Oui, il y a beaucoup de travail et donc c'est une interpellation pour nous tous, autorités, parents, enseignants, corps administratif, scientifique, technique et ouvrier, mais également les étudiants. J'ai eu l'occasion de dire aux étudiants, si vous choisissez la facilité, demain ne vous étonnez pas que vous puissiez vous retrouver au fond du trou. Si nous sommes conscients aujourd'hui que nous avons perdu les repères et que nous devons nous ressaisir, cet effort doit concerner tous ceux qui sont partenaires de l'éducation, c'est-à-dire les parents, les autorités, les enseignants et tous ceux qui travaillent avec les enseignants et la jeunesse elle-même qui doit choisir entre ce que je connais comme le bien ou le mal. Aujourd'hui, la majorité semble avoir choisi la voie de la facilité, de la corruption, du trafic d'influence et de la mauvaise gestion aussi de toutes nos institutions. Ce sont ces antivaleurs-là que nous devons combattre si nous voulons mettre sur le marché de l'emploi des hommes et des femmes capables de diriger le pays et de créer un espoir pour ceux qui sont encore jeunes et qui aspirent aussi à aller le plus vite dans la vie.
Mais, Macha Komamba, c'est bien beau tout ça, mais par quel miracle comptez-vous combattre ces fléaux qui ont pris des proportions inquiétantes si en famille on a échoué?
Je vais vous donner un exemple simple. Lundi, vous avez soulevé le problème de ce qui s'est passé à l'ISC avec en fait l'Académie des Beaux-Arts et l'IBTP.
Oui.
Et à la surprise, le comité de gestion s'est réuni et décide de fermer l'institution. J'ai aussitôt appelé le comité de gestion. Je leur pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a décrit des choses invraisemblables. J'ai posé la deuxième question. Si ces faits se sont faits avec des personnes que vous dites cagoulées, avec des machettes en pleine journée, à côté du bureau de l'inspecteur provincial de la police, comment expliquer que la police n'ait pas été saisie? Je n'ai pas eu une réponse claire. Et à la troisième question, mais avez-vous le pouvoir de fermer l'institution? J'ai entendu une réponse incroyable. Ma décision a été immédiate. C'est d'abord demander à la même personne qui s'est arrogé le pouvoir qui n'a pas de passé à la RPC de mentir sa décision. Deuxièmement, je suis passé personnellement là à l'Institut pour dire que les cours continuaient, parce qu'on ne peut pas accepter que des dirigeants se comportent comme dans un bien sans maître. L'État existe. L'État doit être garant de la sécurité et aux autorités académiques de faire la gestion académique. Je me suis adressé aux étudiants qui étaient complices de ce jeu de certaines autorités de l'ISC. Et donc, je pense que nous devons faire respecter les lois et les textes. Et je ne peux pas accepter que certaines personnes prennent en otage le système éducatif. Et donc, il y a des sanctions qui vont commencer par ce ministre, par quel chemin on va commencer. Il faut que dans notre société, il y ait des sanctions positives pour des actions qui sont posées par respect de la loi, mais il faut aussi des sanctions négatives pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent contrôler la récréation. Nous devons nous-mêmes être exemplaires et éviter de sombrer dans la complaisance et la corruption de dirigeants ou des étudiants ou des parents, mais le faisant, alors nous pourrons être en mesure clairement et sans ambiguïté récompenser, encourager ceux qui font bien et sanctionner sans hésiter tous ceux qui continuent à penser qu'ils peuvent jouer ou avec les faits que donnent les parents, parce qu'il y a beaucoup de fictifs qu'on met sur les listes. On ne pourra pas continuer à fermer les yeux. Nous sommes déterminés en accord et en partenariat avec ceux qui veulent bien travailler pour la République, progressivement de commencer à mettre fin à ces pratiques d'antivaleur qui finalement rongent toute la société.
Oui, Excellence, encore vos propos, vous condamnez l'attitude de certaines autorités académiques qui ont du reste pris la décision de fermer momentanément les instituts. Ben alors, vous ne pensez pas que c'est une mesure conservatoire pour éviter d'autres dommages? Parce que déjà, là, ce qu'on a enregistré, c'était déjà lourd.
Mais les cours ont repris hier sans interruption. Est-ce que vous avez vu le trouble? Le trouble était plutôt dans la tête des dirigeants. Et je ne veux pas entrer dans les détails, mais je pense qu'au lieu de regarder de côté des étudiants dans tous ces événements, regardons du côté de ceux qui ont décidé, parce qu'ils pensaient qu'ils en avaient le pouvoir alors qu'ils ne l'ont pas, de fermer. Nous n'avons pas fermé. Et je pense que nous savons qu'en fait, nous voyons parfois les étudiants qu'on utilise comme manipule. J'ai eu l'occasion de le dire aux étudiants, aux deux délégués de l'ISC, mais certains dirigeants aussi ont cessé de servir la nation et la République. Ils ont instrumentalisé quelques étudiants qu'on utilise pour régler l'un ou l'autre compte et s'auto-gouvernement. C'est au ministère d'être vigilant et de ne pas en fait mettre dans le même moule ceux qui sont du côté de la loi et ceux dirigeants, enseignants ou étudiants ou parents d'étudiants qui pensent qu'ils peuvent continuer à manipuler la jeunesse. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est le cas de l'ISC. Nous n'avons pas accepté. Nous avons décidé que les cours continuent et les cours ont continué. Et nous allons aussi faire la procédure administrative qui doit arriver à sanctionner positivement ou négativement selon les éléments du dossier.
Oui, Excellence, d'aucuns aimeraient un peu savoir quels sont les moyens que vous allez utiliser pour arriver à votre fin. Parce que là, tout le monde s'inquiète, le mal est tellement profond. Comment allez-vous procéder? Quelle approche allez-vous utiliser?
Bon, je pense qu'il n'y a qu'un seul dénominateur qui peut nous mettre d'accord. L'enseignement supérieur universitaire est organisé. Il y a la Constitution, il y a la loi cadre, il y a les différentes lois qui s'adressent à tel élément, il y a tout ce qui est directive et instruction. Je pense que le seul dénominateur commun que je m'impose et que j'exige à tous qui travaillent dans ce secteur, c'est d'agir en se posant la question d'avoir respecté la loi. J'ai dit au conseil d'administration, j'ai dit à la commission permanente des études, j'ai dit au comité de gestion des universités, des instituts, tant public que privé. Ceux qui veulent se mettre derrière la loi, je serai avec eux. Ceux qui se mettent au travers de la loi, je ne serai pas de leur côté. C'est vrai que la tâche est immense. On peut se demander, il faut commencer par où? Mais progressivement, avant-hier, c'était l'ISC. Hier, je suis monté à l'UPM, il y avait des problèmes. Et là aussi, c'est une mauvaise gestion, le trafic d'influence. Le ministre ne peut pas dormir calmement dans son bureau. Il faut que le ministre aille sur le terrain. Il faut que le ministre applique la loi et fasse appliquer la loi. Et il faut que aussi les premières mesures servent de leçon à tous ceux qui aujourd'hui considèrent qu'il n'y avait pas de ça.
Oui. Oui, Excellence, depuis tout ce temps, les textes existent, mais qui ne sont pas d'application. Est-ce que vous serez réellement capable de faire appliquer ces textes?
Mais si vous comprenez que la situation aussi c'est votre problème en tant que citoyen congolais, je pense que vous serez du côté du ministre dans la volonté avec son équipe de faire appliquer la loi. Mm-hmm. Et je vous dis, l'ISC va être le premier exemple parce que une décision de fermeture, mon cher journaliste, ne se prend même pas par le ministre. C'est le ministre qui expose la situation qu'on sait de nous. C'est le gouvernement. Nous avons une situation, un DGP décidé de fermer toute l'institution pendant une semaine sans se référer à qui que ce soit.
Oui, peut-être que le comité de gestion tombe sous le coup de la loi, mais en réalité, c'est cette affaire des cagnottes qui venait d'une grande autorité du pays qui a donné aux étudiants, cette cagnotte qui a divisé complètement les étudiants.
Mais à supposer que ce que vous dites est vrai, cette cagnotte n'a pas été donnée dans l'enceinte de l'établissement, ça n'a rien à voir avec les professeurs, et je peux vous dire que si vous approfondissez le dossier, vous verrez que les hommes cagoulés dont on a parlé, qui ont eu des machettes, des poignards, ce sont des gens qu'on voit dans le sillage de certaines autorités de l'institution. Je pense qu'en approfondissant le dossier, vous allez vous rendre compte que l'État congolais, les familles, les étudiants vont être victimes de certaines manipulations de certaines autorités de l'ISC qui aujourd'hui ont des comptes à régler avec peut-être ceux qui étaient leurs ministres hier. Nous ne pouvons pas accepter que certaines autorités prennent en otage ni les étudiants, ni la famille, ni l'État congolais.
Oui, monsieur le ministre, par rapport à cet incident de lundi, vous ne pensez pas qu'il faut trouver de solutions en amont et en aval? Par exemple, si ces étudiants avaient leur bourse de manière régulière, je crois qu'ils ne seraient pas manipulés de cette manière.
Ah, je ne pense pas qu'il faut simplifier la chose de cette façon-là. Je vais vous dire un autre exemple. Hier, j'étais surpris de voir que malgré qu'on a fait un contrôle biométrique, vous le savez, à l'enseignement supérieur, on a fait un contrôle biométrique.
Mm-hmm.
Est-ce que vous pouvez vous imaginer que pour la paye, malgré que l'État fait un effort pour que cette paye soit régulière, on injecte toujours des noms, on paye des personnes qui ont quitté le pays il y a plusieurs années. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société congolaise qui doit se dire, pouvons-nous continuer comme ça ou nous devons constater nous-mêmes que nous avons pris une mauvaise voie. L'enseignement supérieur veut prendre ce pari dans son secteur, mais aussi en interpellant l'ensemble de la société congolaise qu'il est possible que nous puissions choisir de respecter les lois de notre pays et d'offrir un cadre de formation à nos enfants, nos petits-enfants, où chacun a ses chances et que ce ne soit pas la situation sociale de l'un ou l'autre qui fasse que même les moins méritants puissent être privilégiés et que ceux qui sont en fin de pauvres ou les méritants soient écartés. C'est ces antivaleurs-là que nous devons nous tous, avec l'appui de la presse, devons combattre.
Oui, Excellence, le point est sexuellement transmissible. C'est difficile d'avoir des preuves.
Ah non, j'ai été doyen de faculté de médecine. J'en sais peut-être plus que vous ne pouvez imaginer. Et j'ai eu l'occasion de répéter aux membres du conseil d'administration, au comité de gestion, nous sommes en train de nous détruire depuis notre jeunesse. Il y a le harcèlement sexuel, ce n'est pas un problème qu'il faut cacher, mais il y a aussi des provocatrices ou des provocateurs parmi les étudiants, et qui, en fait, sachant qu'ils n'ont pas étudié, et qui vont pratiquement aussi tenter l'une ou l'autre personne. Ce n'est pas seulement les professeurs, mais certains administratifs qui vont se tirer des copies, certains collaborateurs qui changent de point. Non, nous devons avoir la lucidité de voir l'état désastreux dans lequel se trouve notre enseignement. Cette transmission de points, soit par voie sexuelle, ou aussi parce qu'on a donné des espèces sonantes et trébuchantes. Pourquoi vous ne voyez que ce côté? Ou parce qu'on est l'enfant de tel ou tel. Et donc, c'est vous dire que c'est nous devons, en tant que société.
Voilà, parce que c'est pratiquement difficile d'avoir de preuves quand il s'agit de points sexuellement transmissibles et surtout, il faudrait pas oublier cet aspect. Il y a également des étudiants faibles qui pourraient peut-être, même s'il n'a pas été harcelé, pourraient peut-être faire des accusations fortuites auprès de... Est-ce qu'il y a une commission des disciplines qui peut être mise en place pour étudier des cas de litige? On aura peut-être notre invité dans quelques instants. Beaucoup de préoccupations, beaucoup d'interrogations, et là d'ailleurs nous rappelons nos numéros, nos auditeurs qui nous ont déjà envoyé les leurs, donc merci Nounou, nous avons beaucoup de réactions.
Tout à fait, Jerry, il y a beaucoup de réactions. Il y a Chérubin qui nous écrit des Lupin, il veut savoir quelles sont les causes des antivaleurs au sein des universités, il parle de l'immoralité des professeurs, la cupidité, mais aussi la désaventure du gouvernement aux revendications face aux revendications des professeurs congolais. Trésor nous écrit des Kings, il veut savoir qu'est-ce qui est à la base de toutes ces antivaleurs dans les campus. Le ministre a répondu. Le ministre a déjà répondu à cette question. Bofa Lamarque lui dit il est étudiant en L1 à l'université de l'UNIKIS, donc à Kikangani. Il veut savoir ce que pense le ministre sur la réhabilitation des homes des universités de la RDC, en particulier
de Kikangani. La promiscuité, d'ailleurs.
Voilà.
Donc ça nécessite quand même un aménagement, il faudrait qu'on arrange une réhabilitation pour permettre à ce qu'il y ait une bonne capacité d'accueil afin d'éviter certaines...
Absolument, Gilles, je crois que le ministre aura un mot à dire sur ça. Il y a une autre réaction de Salé qui nous écrit de Lumbashi, il dit les universités congolaises ont perdu leur valeur morale et éthique, d'où l'implication sérieuse de l'autorité en revoyant la qualité des enseignants d'université, surtout celle des assistants et des chefs des travaux. Il y a le professeur Kamangama de l'INULU qui affirme qu'il y a un livre intitulé Code Scott à tout prix qui dénonce les antivaleurs, mais son auteur a été suspendu. Donc, nous allons...
En fait, il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup d'interrogations de la part des auditeurs. Et si vous nous rejoignez à peine, sachez bien que vous êtes sur la fréquence de la paix. Écrivez-nous à action@radiocapit.net, si vous voulez sur le net. Et si vous voulez réagir directement, en tout cas, ne nous bipez pas, ou carrément appelez-nous et nous avons la possibilité de vous rappeler. Nous avons à nouveau les ministres en ligne. On parlait de points sexuellement transmissibles et j'ai insisté, monsieur le ministre, que cet acte, quand il est posé, c'est difficile d'avoir de preuves, mais il faut aussi noter qu'il y a des filles qui sont parfois trop faibles sur le plan scientifique, qui n'ayant pas trouvé son compte auprès d'un professeur, risquent même de faire des accusations gratuites. Est-ce que vous aurez une commission des disciplines qui pourrait étudier de fond en comble tous ces litiges?
Absolument. Absolument, il faut que nous puissions nous-mêmes avoir le courage de regarder les différentes facettes des mots qui rongent la passation des examens, l'attribution des points, la composition du jury. Nous devons combattre ces antivaleurs parce que dans un pays où la prévalence du VIH-Sida est en train aussi de nous monter, il va de soi qu'aujourd'hui, toute contamination à travers ce jeu de points et de réussite, c'est aussi l'avenir et des professeurs ou de tous ceux qui sont autour de points et de ces jeunesse qui est en danger. Mais je voudrais aussi rappeler qu'il y a des personnes qui effectivement utilisent d'autres astuces, notamment la distribution de l'argent, la promesse de telle ou telle chose. Donc en fait, il y a plusieurs facettes dans ce jeu de antivaleurs. Nous devons avoir le courage de regarder, de nous réunir, de parler, parents, délégués, les étudiants, les enseignants, pour en fait rappeler le devoir d'éthique et de moralité si nous voulons mettre à disposition de la nation des cadres qui demain vont participer à cette compétition mondiale. Autrement, les chances de notre pays vont s'aménager au fur et à mesure qu'on met sur le marché des cadres incompétents et mal formés.
Oui, monsieur le ministre, il y a plusieurs auditeurs qui nous appellent et qui réagissent. Nous allons écouter un auditeur qui a réagi et qui vous encourage dans ce que vous faites.
La lutte contre les antivaleurs à l'université, moi je pense que c'est une chose qu'il faut soutenir parce que les étudiants sont le cadre de demain. Et un cadre doit avoir un profil. Et quand quelqu'un qui se dit universitaire ou qui est aux études supérieures se comporte comme si quelqu'un qui n'a pas un niveau d'études, c'est désolé, c'est un peu frustrant et c'est à bannir. Moi, je soutiens un peu cette lutte parce que vraiment, il y a trop de choses qu'il faut bannir à l'université. Il y a la corruption, la manière de s'habiller. Et je pense aussi, il y a aussi le problème des pléthores dans les salles. C'est ce qui pousse un peu, qu'il y ait un peu tous ces mots qu'on décrit aujourd'hui dans l'université.
Oui, monsieur le ministre, vous venez de suivre cet auditeur qui vous encourage, mais il y a beaucoup à faire. Est-ce que vous allez y arriver?
Oui, notamment de rigueur. Et de vous tous. Le problème de l'enseignement supérieur universitaire, comme celui de l'enseignement primaire et secondaire, c'est un problème de la société congolaise. Ça ne peut pas être le problème du ministre seul. C'est pour cela que nous aurons le courage de mettre tous ces mots sous la place et que chacun d'entre nous se demande s'il doit continuer à payer la corruption pour que son enfant qui n'a pas étudié puisse monter, que les parents vont accepter qu'un enfant qui a été délibéré correctement, qui n'a pas échoué, ne puisse pas en fait avoir un droit, que les dirigeants qui détournent les fonds que les parents et les étudiants ont payés puissent être sanctionnés, que des autorités académiques qui n'ont pas la qualification. C'est un autre problème aussi. On a une prolifération inacceptable des institutions d'enseignement supérieur universitaire, tant du public que du privé, avec des autorités académiques qui n'ont pas le niveau. Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant de telles situations. Ça veut dire que le chantier est immense. Nous aurons le courage chaque fois de prendre l'opinion à témoin, de discuter, et de pouvoir dégager les lignes qui peuvent redresser progressivement ce secteur qui vraiment est très malade et qui conditionne l'avenir du pays. Si on ne prend pas conscience de ça et qu'on se décide ensemble d'arrêter ce dérive, ce ne sera pas seulement le ministre de la Santé, de l'Enseignement supérieur universitaire, mais c'est toute la nation congolaise qui aura failli, et c'est un combat auquel j'invite toute la communauté congolaise.
Oui, monsieur Massa Komamba, une dernière question. Nous avons beaucoup de réactions, mais on ne peut pas les lire toutes, faute de temps. Il y a le professeur Kamangamanga de l'UNILU qui nous dit qu'il y a un livre intitulé Cote à tout prix qui dénonce les antivaleurs, mais son auteur a été suspendu. Est-ce que vous êtes au courant de ça?
Je ne suis pas au courant. Je souhaiterais prendre connaissance de ce livre. Bon, maintenant, est-ce qu'il a été suspendu à cause de ce livre? Est-ce qu'il a été suspendu? Je pense notre devoir, justement, c'est d'écouter tous les cas et d'examiner par rapport aux lois, aux textes qui régissent l'enseignement supérieur. Et je peux vous assurer, si quelqu'un a son droit, pour le remettre dans son droit. Par contre, si quelqu'un a des fautes qui nécessitent une sanction, je vous ai dit, nous voulons des sanctions positives, mais aussi des sanctions négatives, pour décourager progressivement
il y a un auditeur qui vous encourage dans cette démarche, il dit qu'il faut sanctionner, mais il faut aussi voir le côté social de ces enseignants. Ils enseignent, ils abattent un travail de titan, mais en retour, ils sont mal payés. Est-ce que vous allez, dans cette lutte, vous engager aussi à arracher quand même quelque chose au bénéfice de ces professeurs?
Non seulement je vais m'engager, mais j'ai dit aux enseignants, aidez-moi dans la bonne gestion des institutions, aidez-moi dans le respect des textes, les critères de délibération, et vous me donnerez des arguments pour que je sois votre avocat auprès du chef de l'État, auprès du Premier ministre. Je pense que si la société congolaise, à travers ceux à qui l'État confie la formation de nos futurs cadres, s'engage sur ce chemin-là, ce sera plus facile de convaincre la nation de faire aussi un effort important pour les cadres académiques, scientifiques, administratifs, techniques, ouvriers de l'enseignement supérieur, et penser aussi à nos étudiants, leurs conditions que nous devons améliorer. Mais si nous pouvons montrer qu'il n'y a pas d'inscription, nous plus pour avoir l'argent que pour veiller sur la qualité. Aujourd'hui, c'est plus la quantité. Nous avons renoncé à faire la qualité. Or, c'est la qualité que nous devons chercher. C'est un combat qui doit nous mobiliser, nous tous, et j'espère que les autorités, les parents, les étudiants, et vous, la presse, qui devez être les éléments moteurs d'explication et de cette capacité de regarder notre vérité, et d'apprécier les efforts qui sont faits, les encourager ou dénoncer là où on a fermé les yeux devant des anomalies, c'est de cette façon que nous pouvons petit à petit arrêter la descente aux enfers et espérer un jour ressortir la tête au-dessus de l'eau.
Massa Komamba, on va s'arrêter là avec vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous rappelons que vous êtes le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. À la prochaine.
À la prochaine, merci.